RFI, 5h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
Nemo en pisse.
Et cette question à la une, les pays africains peuvent-ils tirer profit de l'annonce retentissante de la Chine concernant la suppression des droits de douane? 33 pays en bénéficient déjà, Pékin souhaite en faire profiter 20 de plus. Élément de réponse avec un chercheur qui voit un gain plus géopolitique qu'économique. Les craintes d'une catastrophe environnementale dans le nord de Madagascar où des pêcheurs et touristes ont découvert des traces de fioul non loin de Diego Suarez. Un cargo y est tombé en panne dimanche dernier. Les autorités, elles, écartent tout risque de pollution. Nous sommes à Mayotte dans ce journal, 6 mois après le passage du cyclone Chido. Sur place, le nombre d'hébergements pour les demandeurs d'asile est loin d'être suffisant. Au grand désarroi de centaines de réfugiés, des Congolais qui fuient la guerre notamment, exposés à l'insalubrité et l'insécurité des camps de fortune. Et puis on vous présente 5 footballeurs africains qui peuvent sortir du lot à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Nouvelle version qui démarre la nuit prochaine. Mais d'abord un mot de la situation au Proche et Moyen-Orient. Les alertes anti-aériennes ont retenti toute la nuit en Israël. La riposte de l'Iran se poursuit à l'heure où l'on parle. Des dizaines de missiles ont été lancés, frappes qui ont touché Jérusalem et Tel Aviv. L'armée israélienne continue de son côté ses bombardements. Ils ont frappé l'un des aéroports de la capitale, Téhéran, ainsi que la grande ville d'Ispahan. Les frappes israéliennes ont fait 78 morts et plus de 320 blessés selon Téhéran. En Israël, une femme est décédée et 34 personnes ont été blessées selon les services de secours locaux. Le patron des Nations Unies appelle à la désescalade immédiate. On y revient dans le journal de 4 heures, temps universel. Je vous le disais en titre, jeudi à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha, Pékin s'est donc dit prête à supprimer les droits de douane sur les produits de 20 pays du continent supplémentaire, ce qui porterait le nombre à 53 puisque 33 bénéficient déjà de ces exemptions totales de taxes. À l'heure actuelle, la Chine n'importe d'Afrique quasiment que des matières premières qui ont une faible valeur ajoutée. C'est donc, selon de nombreux observateurs, un important coût géostratégique plutôt qu'économique. Je vous propose d'écouter Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique.
Personnellement, je considère que c'est un acte politique. C'est un effet d'annonce, un très bel effet d'annonce, qui va, dirons-nous, entre autres, à l'encontre des déclarations de Donald Trump. Et je pense que l'élément le plus important, c'est beaucoup plus dans cet affrontement entre la Chine et les États-Unis. Très objectivement, ça fait 3% du commerce de la Chine, toute l'Afrique. Ce qui fait que finalement, c'est sur une portion très minime que les choses peuvent jouer. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça va forcément favoriser les ventes de produits africains à destination de la Chine. Que l'on regarde le cuivre, que l'on regarde les matières premières plus rares ou que l'on regarde le pétrole, la Chine s'est créée une palette de fournisseurs et parmi ces fournisseurs, les pays africains comptent très peu. Et dans la mesure où les achats chinois de matières premières ne sont pas décidés par les pays africains mais par la Chine, il est évident que les pays africains pourront très difficilement utiliser l'occasion qui semblerait s'offrir à eux.
Le chercheur Thierry Perrault, joint par Alexis Bédu, a noté que seul l'Eswatini, en raison de sa reconnaissance de Taïwan, n'est pas inclus dans cette potentielle suppression des droits de douane de la part de Pékin. La date de l'entrée en vigueur de cette mesure n'a pas non plus été annoncée. Clap de fin sur la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Des représentants des 153 pays de l'organisation ont été réunis à Nice toute la semaine dans le sud-est de la France. À l'issue des discussions, les engagements de Nice pour l'océan ont été adoptés hier. La principale annonce concerne le traité sur la haute mer qui pourrait entrer en vigueur d'ici septembre. Une poignée de pays se sont également engagés contre l'extraction minière dans les fonds marins, d'autres contre la pollution plastique ou encore pour la création de nouvelles aires marines protégées. Et c'est dans ce contexte de défense de la biodiversité marine que, du côté de Madagascar, un cargo échoué près de la ville de Diego Suarez dans le nord de la grande île fait craindre une catastrophe environnementale. Le navire est tombé en panne il y a une petite semaine avant de dériver jusqu'à une barrière de corail qui encercle la mer d'Émeraude. Pour l'heure, les autorités malgaches écartent tout risque de pollution, mais des traces de fioul ont été découvertes sur un îlot avoisinant. Guillaume Fabry.
Une pâte noire visqueuse dégageant une forte odeur de fioul. C'est ce qu'ont découvert des pêcheurs et des touristes sur l'une des plages de l'îlot Nossi Suarez, au lendemain de l'échouage du cargo Amori, à quelques centaines de mètres de là. Cette pollution aux hydrocarbures, attestée par de nombreux témoignages et photographies recueillies par RFI, est cependant démentie par le ministère de l'Environnement et les autorités maritimes, qui assurent qu'aucune fuite n'a été constatée sur ce navire transportant du riz et du ciment. Par précaution, les 20 tonnes de fioul lourd contenues dans ces cuves ont tout de même commencé à être vidées dans des bidons. Le cargo, sous pavillon malgache, long d'une centaine de mètres, doit ensuite être dégagé grâce à deux bateaux de pêche chinois basés au port de Diego Suarez, sans qu'une date n'ait encore été fixée. Des tortues aux poissons tropicaux, les eaux turquoises de la mer d'Emeraude abritent une biodiversité exceptionnelle. Le site fait vivre le secteur du tourisme ainsi que des communautés de pêcheurs qui ont entrepris de retirer elles-mêmes, à partir d'aujourd'hui, les couches d'hydrocarbures présentes sur l'île Nossi Suarez. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
C'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 14 décembre dernier, le cyclone Chido touchait Mayotte et dévastait cette île française de l'océan Indien. Mayotte que de nombreux habitants de l'Afrique des Grands Lacs et de Somalie rejoignent depuis quelques années en espérant pouvoir rallier la France métropolitaine. Mais après la catastrophe, beaucoup y vivent dans des conditions insalubres, faute de place dans les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile. Notre correspondante à Mayotte, Lisa Morisseau, s'est rendue dans un camp à la périphérie de Mamoudzou, où 300 exilés tentent de survivre.
À l'extrémité du camp, des hommes s'activent. Ils creusent un grand trou. Cela servira de toilette. Il n'y en a pas dans le camp, ni de douche. Chacun fait ses besoins dehors, mais cela met en danger les femmes. Une Congolaise qu'on appellera Grace, 26 ans, a été agressée dans ce contexte.
Les conditions du camp sont compliquées, surtout pour les femmes. Par exemple, ça peut vous arriver la nuit, vers minuit, vous avez un petit besoin, vous pouvez vous soulager. Tu dois parcourir les risques de sortir dehors. Dans les camps, il y a des hommes, surtout des hommes ne dorment pas, ils passent des nuits à prendre de l'alcool. En étant une femme, je suis exposée involontairement.
Récemment, une exilée a par ailleurs déposé plainte pour viol. Les hommes aussi subissent des violences. Bienvenue, 24 ans.
Ici, il y a des enfants, des adolescents qui nous jettent des cailloux. Chaque jour, il y a des gens qui sont blessés, les autres ils les ont poignardés. Vraiment, ça fait mal.
Les occupants attendent que leur situation administrative avance. Ils ont demandé l'asile à la France, mais pendant plusieurs mois, la préfecture a été bloquée par un collectif xénophobe. Cela a entraîné d'énormes retards dans le traitement des dossiers. Après avoir fui les persécutions en RDC, jamais Grace n'aurait imaginé que la vie serait aussi compliquée à Mayotte.
On nous avait dit que si vous arrivez à Mayotte c'est la France. À la France, il y a la paix, et il y a la fraternité, l'égalité et tout. En arrivant ici à Mayotte, c'est ce que nous vivons.
Actuellement, 600 places d'hébergement sont destinées aux demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire, alors qu'il en faudrait 3000. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
RFI, 4h38 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Rencontre entre des délégations de la MONUSCO et de l'AFCM23 à Goma. Hier, Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'équipe onusienne était menée par sa chef, Bintou Keïta. Très peu d'informations ont filtré, mais la MONUSCO a expliqué que la réunion avait pour but d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la mission, notamment la protection des civils. Bintou Keïta a fait savoir qu'elle présenterait bientôt ses conclusions au Conseil de sécurité le 27 juin prochain. L'Est de la République démocratique du Congo, où la SADC avait décidé la fin de sa mission militaire en mars dernier après la mort de 17 de ses soldats en marge des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise. Et hier, un premier contingent composé de 249 militaires sud-africains a fait son retour à Pretoria. Le ministre de la Défense a précisé que l'armée travaillait sans relâche avec ses homologues régionaux pour achever le retrait de RDC des troupes et du matériel médical de la SAMI-RDC. L'Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa a fait le déplacement auprès des populations sinistrées après des inondations sans précédent qui ont fait au moins 78 morts dans la province du Cap-Oriental dans l'est du pays. Sur place, des milliers d'habitations, d'écoles et de dispensaires ont été ensevelis sous la boue. Pour l'heure, le bilan est toujours provisoire et les recherches de secouristes se poursuivent. Au Kenya, le chef du poste police de Nairobi, où est décédé le week-end dernier Albert Ojwang, a été arrêté hier. L'une des sources policières contactées par l'agence France Presse le qualifiant de principal suspect. Pour rappel, Albert Ojwang avait été arrêté pour avoir critiqué un officier sur les réseaux sociaux avant de décéder en cellule quelques heures plus tard. Dans un premier temps, la police avait assuré qu'il était décédé de blessures qu'il s'était lui-même infligées, mais un rapport d'autopsie a révélé de nombreuses lésions au crâne et au cou, incompatible avec cette version policière. Et puis, du sport pour refermer la première partie de cette demi-heure du football et la Coupe du Monde des clubs. Nouvelle version qui démarre dans la nuit de samedi à dimanche. Pour ouvrir le bal, les Égyptiens d'Al Ahly du Caire affrontent l'Inter Miami de Lionel Messi. Un tournoi où certains joueurs du continent africain devraient pouvoir se montrer. Sofiane Amazian.
Maintenir la dynamique après la victoire en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi fait figure de favori de cette nouvelle compétition. Le prix Marc Vivien Foé 2025 réalise la saison de sa vie, auteur de 9 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Il sera l'un des joueurs à suivre assurément. Lui aussi a brillé au niveau statistique. L'attaquant guinéen de Dortmund, Serou Guirassy, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations, a fait taire les sceptiques et sera surveillé de très près par les défenses adverses. À surveiller également le Gabonais Denis Bouanga, machine à but depuis son arrivée chez les Los Angeles FC en 2022. C'est d'ailleurs lui qui offre la qualification à son club face à Club América. Passé par la Ligue 1, comme Bouanga, Youssef Belaïli a fait son nid du côté de l'Espérance de Tunis. Connu pour sa carrière plutôt tourmentée, l'ailier algérien de 33 ans démontre l'étendue de son talent. Ces derniers mois, meilleur passeur et deuxième meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions africaine. Aussi habile en club qu'en sélection, Ronwen Williams peut nourrir lui des ambitions avec les Mamelodi Sundowns. Nommé pour le trophée Yashin en octobre dernier lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le portier des Bafana Bafana devra sortir le grand jeu pour exister dans une poule composée notamment du Borussia Dortmund.
Sofiane Amazian, et le premier match entre l'Inter Miami et Al Ahly du Caire est prévu la nuit prochaine à minuit, temps universel. Un mot rapide de basket pour vous dire qu'Oklahoma City a égalisé de partout dans la finale NBA qui l'oppose aux Indiana Pacers du Caire. Camerounais Pascal Siakam. Il est 5h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
Et à suivre, les 6 premiers mois du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche, vu sous le prisme africain. C'est à la une de Jeune Afrique ce samedi. RFI célèbre également l'écrivain congolais Sonny Tabulansi, décédé le 14 juin 1995, soit il y a 30 ans jour pour jour. Sa vie, son œuvre avec Xavier Garnier, professeur de littérature francophone, il est notre invité. Et puis deux reportages, culture à la frontière franco-belge pour une exposition consacrée au monde de la musique techno. Et tout de suite, notre reportage Afrique. En Sierra Leone, l'un des pays les plus exposés à l'érosion côtière au monde et où près de 2 millions de personnes qui vivent le long du littoral sont exposées, elles risquent de perdre et leur habitation et leurs moyens de subsistance. Nouvelle illustration sur l'île Plantin ce matin, à plusieurs heures de bateau de Freetown, la capitale. Là-bas, la montée rapide du niveau des eaux a fait fuir une bonne partie des 5000 habitants qui y vivaient autrefois. Mais les plus démunis, eux, n'ont nulle part où aller. Reportage Lisa Fabian.
L'histoire de l'île Plantin semble sur le point d'être effacée. Une partie des vestiges de cet ancien comptoir commercial portugais a déjà été engloutie par l'océan.
Je dirais qu'à peu près deux tiers de l'île ont disparu. Dans les années 70, les gens cultivaient la terre ici, mais ces champs n'existent plus. À l'époque, ils pouvaient aussi chasser des gros rongeurs, mais ces animaux, eux aussi, ont disparu.
Charles Barley est officier de la marine sierra-léonaise. Il vit à Chengue, la bourgade qui fait face à l'île de Plantin sur la côte.
Je dirais que presque 200 maisons ont disparu dans la mer. Il y avait 3 mosquées ici, mais il n'en reste plus qu'une. La FAO avait fait construire des bandas pour sécher le poisson, et ça aussi c'est parti.
Difficile de dire combien d'habitants vivent encore ici. À la pointe de l'île Plantin, une fine langue de sable permet de rejoindre les grandes huttes dans lesquelles le poisson est fumé. Afsatou dort dans l'un de ces bandas depuis qu'elle a perdu sa maison.
Il était minuit, toute la famille dormait, 15 personnes en tout. Quand une grosse vague est entrée d'un coup dans notre maison et a tout emporté. Nous aimerions partir d'ici car la terre est rétrécie et nous avons peur. Si j'avais de l'argent, je le ferais. Mais je n'ai aucune économie, sinon j'aimerais m'installer à Tombo, le gros port de pêche sur le continent.
Malgré le déclin de l'île, la plupart des jeunes continuent à devenir pêcheurs comme leur père, faute d'alternative. C'est le cas de Mohamed Dangoa.
J'ai étudié jusqu'au lycée, mais maintenant je vais en mer. Pourtant il y a moins de poissons, car certains pêcheurs ont raclé les fonds avec leurs filets jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors nous sommes obligés d'aller très loin pour trouver du poisson. Certains de mes amis, qu'ils pouvaient, sont partis pour essayer de trouver un meilleur travail ailleurs dans le pays. Parce qu'ici, il n'y a rien.
Et certains effets du changement climatique ne sont pas visibles à l'œil nu, rappelle Henry David Bayo, qui travaille pour l'Agence de protection de l'environnement.
Avec l'érosion, l'eau salée s'est infiltrée et s'est mélangée à l'eau des nappes phréatiques. Donc, même trouver de l'eau potable sur l'île est devenu difficile, ce qui a des implications sur la santé des habitants. On observe aussi des changements dans les courants marins, ce qui a des conséquences sur la pêche. Et puis le plancton, par exemple, ne survit pas à la hausse de la température de l'eau.
Un projet de restauration des mangroves est notamment à l'étude pour tenter de sauver ce qui reste de l'île Plantin avant que l'océan ne l'avale entièrement. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. Les principaux titres de ce samedi 14 juin 2025, des dizaines de projectiles iraniens tirés sur Israël depuis hier soir. Ce matin, la télévision d'État à Téhéran rapporte de nouvelles frappes, des frappes en riposte aux attaques aériennes israéliennes dans la nuit de jeudi à vendredi. Elles ont visé de multiples sites nucléaires dans le pays. Elles ont également visé des centres des gardiens de la révolution. Plusieurs hauts responsables de la puissante organisation paramilitaire ont été tués. Les frappes israéliennes ont fait 78 morts et plus de 320 blessés selon Téhéran. En Israël, une femme est décédée et 34 personnes blessées selon les services de secours locaux. Radio France Internationale en édition spéciale dès 5h temps universel et en direct sur l'application RFI et sur notre site internet rfi.fr. La situation à Gaza également et ses marches pour tenter de briser le blocus israélien. Il y en a deux et elles sont bloquées, l'une en Égypte et l'autre en Libye. On y revient dans le journal Afrique de 4h30 temps universel. Puis en France, 5 syndicats, des partis de gauche et des collectifs en faveur des droits des Palestiniens appellent à la mobilisation aujourd'hui pour réclamer la paix à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. Il y aura notamment une manifestation à Paris. 5h46 ici, à Paris. À la une de Jeune Afrique cette semaine, un premier bilan de la politique de Donald Trump en Afrique. 6 mois après son retour à la Maison Blanche, Catherine Potet reçoit François Soudan, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
On ne s'attendait pas à une politique très amicale de la part du président américain vis-à-vis du continent africain, mais la réalité dépasse ce que les plus pessimistes avaient imaginé. C'est pourquoi vous parlez de véritable maltraitance.
Oui, la liste des mesures prises depuis 6 mois dont le continent est la cible délibérée ou la victime collatérale, elle est impressionnante, Catherine. Dernière en date, le travel ban, évidemment, l'interdiction d'entrée aux USA des ressortissants de 12 pays, dont 7 Africains, qui est entré en vigueur depuis le 9 juin. C'est une décision violente, discriminatoire, qui peut paraître infamante dans ses motivations officielles, mais qui obéit finalement à l'implacable logique de la politique migratoire trumpienne. Tout étranger en situation illégale est considéré comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et des pays dont le pourcentage de ressortissants demeurant sur le territoire américain au-delà du délai légal de leur séjour est jugé excessif, même si leur nombre est faible, ou ceux dont les passeports profitent à des individus suspects de liens avec les organisations labellisées terroristes comme le Hezbollah, font l'objet d'une punition collective. Pour les étudiants africains de ces pays désireux de s'inscrire dans une université américaine, c'est une sorte de double peine puisqu'était déjà en vigueur depuis la mi-mai la circulaire du secrétaire d'État Rubio suspendant sine die les entretiens préalables à l'obtention de visa dans toutes les ambassades et consulats du continent, Catherine.
Les Africains doivent donc faire avec les suspensions ou les interdictions de visa et plus grave encore avec les coupes drastiques dans les budgets d'aide au continent, coupes dont les conséquences sont particulièrement sérieuses.
Ah oui, le « nous ne voulons pas d'eux » asséné avec mépris par Donald Trump à propos des citoyens des pays visés par le travel ban s'accompagne d'un « dégager l'Amérique d'abord », adressé aux bénéficiaires de l'aide, perçu comme autant de sanctions. Alors, il y a eu d'abord la tronçonneuse Musk, amputant des trois quarts le budget de l'agence USAID, puis le retrait de l'OMS, de l'accord Paris sur le climat, de la quasi-totalité des programmes du Haut-Commissariat aux réfugiés, alors que la BAD, la Banque africaine de développement, se voit menacée d'une suppression de la contribution américaine. Cette dernière mesure, elle figure dans le projet de loi budgétaire 2026, lequel comporte également une lourde taxe sur les transferts de fonds à l'étranger, qui s'annonce problématique hein, pour de grands pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Sénégal, et carrément meurtrière pour les petits. Je pense à la Gambie, au Cap-Vert, au Libéria, au Lesotho, là où les virements en provenance de la diaspora représentent parfois plus de 20% du PIB, Catherine.
Enfin, François Soudan, vous posez cette question. Quel effet la politique de Donald Trump aura-t-elle sur le soft power américain ?
Je crois que le président américain se contrefiche hein, des effets de ces multiples décrets sur le soft power de son pays en Afrique. Par exemple, les effectifs de la station Voice of America, qui revendique 37 millions d'auditeurs multimédias sur le continent, ils passeront en août prochain de 1300 à, tenez-vous bien Catherine, 81 salariés. Dans un sondage d'avril hein, de l'index de perception de la démocratie dans le monde, l'image de Trump, elle est négative dans 82 pays sur 100, y compris dans la grande majorité des pays africains. Jamais un président américain n'était descendu aussi bas. Alors le grand rival chinois, il en tire avantage, bien sûr, mais les dirigeants africains seraient peut-être bien inspirés, eux, de mettre à profit cet abandon américain pour réduire leur dépendance, renforcer leur résilience et faire preuve d'un sursaut de dignité collective. Marquer le coup, par exemple, en boycottant au niveau officiel les festivités du 4 juillet, hein, qui est la fête nationale américaine dans les ambassades des États-Unis, des pays dont les ressortissants sont jugés indésirables, ça serait symbolique, finalement la moindre des choses. Mais je ne me fais pas trop d'illusions à ce sujet, Catherine.
Merci, François Soudan. Plusieurs articles sur cette question sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique avec Catherine Potet. C'était le 14 juin 1995, il y a 30 ans, jour pour jour. L'écrivain, poète et dramaturge du Congo-Brazzaville, Sonny Tabulansi, s'éteignait. Son œuvre dénonçait la corruption et la dictature tout en célébrant la vitalité humaine de l'espoir. Mais alors, qui était-il vraiment ? Qu'a-t-il laissé comme trace ? Xavier Garnier, professeur de littérature française et francophone à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, est l'invité ce matin de Laurent Courreau.
Bonjour Xavier Garnier.
Bonjour.
Qu'est-ce qui, dans le travail de Sonny Tabulansi, a fait de lui l'un des grands auteurs de la littérature africaine du XXe siècle ?
Il fait partie de cette génération des écrivains africains qui sont arrivés sur la scène littéraire dans les années 70 et qui ont rompu avec un pli qui avait été pris depuis l'époque coloniale, notamment sous l'égide de personnes du mouvement de la négritude, de grands écrivains comme Senghor, qui avaient comme souci de présenter l'Afrique à l'Europe. Sonny Tabulansi, c'était pas son problème. Son problème, c'était de crier l'Afrique, de dire l'Afrique de là où il était. Cette littérature qui se réclame d'une expérience vécue, ça a été une forme de rupture et c'est ça qui donne sa puissance à ses textes.
Il a une langue aussi très forte, très violente presque.
Voilà, il était d'une famille absolument pas aisée et donc il a connu des grandes misères économiques, mais aussi des violences politiques. Ça a forgé un style. Il dit de l'art que c'est un exercice radical de lucidité. Il cherche vraiment, par son écriture, à être le plus fidèle possible à l'expérience qui est la sienne.
Et quels ont été justement ces combats ? Qu'est-ce qu'il a cherché à dénoncer dans son écriture ?
Il est très connu pour son premier roman qui a été publié en France, qui s'appelle « La vie ennemie », qu'on a à juste titre d'ailleurs présenté comme un roman qui dit les dictatures postcoloniales, donc qui dit la violence politique. Donc ça, c'est un versant important de son œuvre. Le roman auquel il tenait le plus, d'ailleurs, qui n'avait pas été publié tel quel, mais qui avait comme titre dans le manuscrit « Machin la hernie », c'est un roman d'une puissance extraordinaire, a été reçu en Europe comme une dénonciation de la dictature. Et ça l'a un peu agacé, ça l'a même beaucoup agacé, en fait, en disant « Mais non, c'est pas ça que je fais. Moi, ce que je veux faire, c'est épouser l'expérience du pouvoir dictatorial et de toute la violence qui va avec. »
Ce qui est frappant aussi dans l'œuvre de Sonny Tabulansi, c'est qu'il a des engagements contre la surexploitation minière aussi, qui sont finalement très très contemporains, très actuels.
Oui, absolument. Ça, c'est explicite dans son théâtre. Il y a une pièce qui s'appelle « Le trou » qui parle de la prospection pétrolière à l'époque de Sassoum Nguesso, d'ailleurs. Déjà, au moment où le jeune Sassoum Nguesso a ouvert le pays à Elf et à la prospection pétrolière, il y a aussi la déforestation qui est très présente dans une pièce qui s'appelle « Monologue d'or et d'argent », qui est une de ses dernières pièces, où il est question d'un arbre plurimillénaire que alors des Américains, alors en l'occurrence les Américasseurs, veulent déterrer et veulent emmener dans un parc naturel aux États-Unis, dans une région protégée, sous prétexte qu'en Afrique, il va dépérir. Et cet arbre est protégé par un vieillard et un enfant dans un village qui a été complètement vidé de sa population par un exode rural.
Quels sont ces textes les plus connus ? Que disent-ils ?
C'est le premier roman, donc « La vie ennemie hein, », qui raconte cette dynastie de dictature accueillie comme une sorte d'événement, de révolution stylistique. Après, son théâtre a été extrêmement joué. Il avait une troupe de théâtre à lui qui répétait et qui travaillait à Brazzaville, mais qui a beaucoup tourné à travers le monde, notamment au Festival de Limoges. Sa poésie de son vivant a été publiée de façon très, très éparse, alors que sa poésie était immense. Et donc, tout a été rassemblé pour les 20 ans de son décès en 2015. Un travail exceptionnel, parce qu'on voit vraiment les poèmes évoluer. Les poèmes, il les reprenait d'année en année. Et on voit les poèmes évoluer dans cette poésie. Complète.
Dans l'œuvre de Sonny Labutanti, il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qui a été publié, qu'on connaît, mais il y a toute une partie inconnue du travail de Sonny Labutanti qui est extrêmement importante, qui sont des textes donnés de la main, à des relations, à des connaissances, à des amis.
Pour lui, la conception qu'il avait de l'écriture, il insiste beaucoup sur le terme de contact, de toucher. Il veut toucher les gens. D'ailleurs, on a beaucoup caractérisé sa littérature comme ça, comme une littérature d'interpellation. Il s'adresse à son lecteur. Et donc, cette circulation des manuscrits, c'est une façon de toucher. Il les donne physiquement de main à main. La façon dont il s'adresse aux personnes à qui il donne les manuscrits et d'attendre aussi un retour et l'attention qu'il avait aussi au retour qu'on pouvait lui donner. Cette question de la vie des manuscrits, je trouve que c'est central pour comprendre la façon dont il voyait sa création littéraire, qui est d'abord une écriture avec. Et en ce sens, c'est un écrivain très éthique. C'est-à-dire, il écrit pour l'humanité, c'est un grand mot. Mais derrière l'humanité, il veut parler du lien social. Et il met dans l'humanité aussi le monde végétal de la grande forêt équatoriale. Et là, on retrouve l'écologiste d'une certaine façon. Le monde animal, il veut faire société. Et faire société avec les gens, c'est être en contact avec eux.
Xavier Garnier, merci.
Merci beaucoup à vous.
Xavier Garnier, professeur de littérature française et francophone à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris, avec Laurent Corot. Entretien à retrouver en intégralité dès ce matin sur RFI.fr. Et avant de retrouver Jeanne Bartoli et l'actualité internationale, un détour par le nord de la France, à Lille, pour le reportage culture, où Lille 3000 a fait son grand retour cette année. Parmi les événements phares, il y a Electrorama, exposition immersive entre photographie et beats envoûtant. Elle plonge les spectateurs dans l'univers des nuits techno des années 80 en France et en Belgique, deux pays de trance collective historique. José Marigno s'est rendu sur place.
Donner l'idée de ce que pouvaient être les nuits d'électro et techno du côté français et du côté belge.
Audrey Hoarau est la commissaire de l'exposition Electrorama. Club, parking, festival témoignent d'un autre monde où la réalité bascule juste derrière les portes de la nuit.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des événements qui soient très complémentaires et très représentatifs. Donc par exemple, Anderlecht au Crossroads Festival qui se passe en dessous d'un viaduc, ou alors à Voodoo Village qui est plutôt dans la nature, dans les Ardennes. Donc c'était vraiment des ambiances différentes qu'on voulait sélectionner.
Danser pendant que le monde tangue, c'est dans ce vertige entre urgence climatique, crise multiple et besoin de lâcher prise que Fiesta installe son tempo à Lille 3000.
La thématique Fiesta nous permet aussi parfois de rentrer un peu plus en profondeur sur la société, par exemple, ce qu'on est vraiment et comment on vit la fête et ce qu'elle nous permet aussi de cristalliser. Et puis ce que je trouvais intéressant chez Nikita aussi, c'était de prendre quelqu'un qui n'était pas du tout déjà dans ce milieu.
Nikita Teryoshin est un photojournaliste russe aujourd'hui exilé en Allemagne. En 2020, il a reçu le prestigieux World Press photos pour ses clichés sur les coulisses de la guerre. Mais les dance floors, c'est un terrain totalement nouveau pour lui. Il photographie des corps en mouvement, de torse nu, bras tatoués et visages parfois flous.
Au début, je pensais que ces soirées se résumaient à de l'alcool à gogo et à un bruit assourdissant. Mais très vite, j'ai compris que ces fêtes sont un vrai espace de liberté et d'évasion. Avant, en 2019, je travaillais comme photojournaliste en Russie sur des sujets comme la propagande. Mais en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'ai ressenti une honte profonde. J'ai même posté la photo d'un passeport russe en train de brûler pour montrer mon opposition à Poutine, ce criminel de guerre. Ce n'est pas un amateur de techno ni de toute forme d'art. C'est pourquoi il est important de défendre les rêves partis, parce que c'est là que l'énergie collective se manifeste, que les gens se rassemblent et qu'on protège à notre manière la démocratie.
Son travail capture des moments de communion, explique la commissaire. Audrey Oaro.
Il n'y a pas de jugement dans ces soirées-là. Chacun vient comme il est, avec son look. On est extravagant, on est dans l'extrême parfois. Et savoir s'amuser ensemble, vivre ensemble, c'est un beau message.
Avec Electrorama, l'exposition devient une piste de danse à Lille 3000. On y entre à la fois en transe et en tension dans cet univers parallèle.
Et l'exposition Electrorama est à découvrir à l'espace Le Carré dans le cadre de Lille 3000 jusqu'au 6 juillet 2025. Merci à José Marignot du service culture pour ce reportage. 5h59 ici à Paris, c'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Vincent Dublange à la rédaction en chef, à Ryan Bois à la réalisation de cette demi-heure. Dans un peu plus de 30 secondes maintenant, le retour de l'actualité internationale avec Jeanne Bartoli.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.